Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Benjamin Coria, il est professeur de sciences économiques à Paris 13, membre du comité d'animation des économistes atterrés et auteur du bien commun, le climat et le marché. Réponse à Jean Tirole aux éditions Les Liens qui libèrent. Christian Saint-Etienne, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, membre du Cercle des économistes, partenaire de cette émission chaque jeudi, qui a publié Le libéralisme stratège contre le chaos du monde chez Odile Jacob. Et Gaël Sliman, le président de Doxa, avec deux derniers chiffres sur la perception des réformes de retraite par les Français. Juste ce tweet de Bull Market qui m'a bien fait rire. La retraite est la meilleure période de la vie, dommage que ça se termine mal.
C'est excellent. Elle est très bonne. Deux fois 67.
Deux fois 67.
67% des Français, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure dans notre baromètre sur les retraites pour Groupama, 67% des Français nous disent qu'ils sont opposés à une réforme avec un report de l'âge
légal. Pas surpris.
67% nous disent si vous le faites, nous nous mobiliserons contre. Et parmi ces 67, 19% disent on ira même manifester, se mettre en grève. Enfin, ça ira loin. Et alors les trois quarts des Français ne veulent pas entendre parler ni d'un passage en douce, en quelque sorte, par un amendement au PLFSS. Et les trois quarts nous disent aussi que si ça passe par un 49-3, ils jugeront cela inacceptable.
Oui, c'est chaud. Christian Saint-Etienne, vous vouliez rajouter un élément, alors je sur
alors c'est un élément qui
versus retraite par points et je ne sais plus ce que vous vouliez dire.
Oui, c'est dans la façon dont on aborde la réforme des retraites. Si vous vous souvenez, en 2019, et j'étais un des rares à m'être massivement mobilisé contre la réforme de 2019, parce qu'elle se voulait être en point. Et c'était, je pense, dans la façon de voir à l'époque de Macron, qui n'avait pas encore 40 ans, qui devait se dire, j'arrive et je vais régler avec un seul régime pour toujours un problème que personne n'arrive à régler depuis 50 ans.
C'est
Bonaparte à Austerlitz. Et donc, en réalité, je le dis assez crûment, le système par points, c'est pour baiser les gens. Pourquoi ? Et pourquoi je dis qu'il faut rester en annuité ? C'est parce que c'est pas seulement une réforme technique, c'est une réforme socio-économico-politique. Ça concerne toute la population. Et quand ça concerne toute la population, il faut que les gens comprennent. Et les annuités, on comprend. Si on a un système avec 42 ans de durée de cotise, il faut passer à 44 ans, tout le monde peut comprendre que de 42 à 44 ans, on a ajouté 2 ans. Voilà. Donc, la simplicité est fondamentale sur un régime socio-économico-politique qui concerne l'intégralité de la population. Et sur les points... Alors, ce qui était miraculeux dans la réforme de 2019, c'est qu'on ne vous parlait pas de 65 ans, vous parlez de rien.
C'était à la carte.
Et je me suis battu, pourquoi ? Parce que, économiste, mathématicien, qui travaille beaucoup sur les questions de finances publiques, je savais exactement ce qui allait se passer, c'est-à-dire qu'au cours des 40 prochaines années, la valeur du point allait baisser.
Tous les ans.
Bien sûr. Et quand j'ai reçu...
Et ça, on l'a dit ici. Hein. Et tous les ans, le Parlement arbitre la valeur du point.
Et donc, j'ai beaucoup écrit sur ça, et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que j'ai reçu des mails et des lettres privées...
D'insultes ?
De très hauts fonctionnaires de Bercy,
oui,
me disant merci de dire ça, parce que nous on ne peut pas le dire, mais on sait que c'est ce qui va se passer. Donc je dis attention à la réforme par point. Moi je veux une réforme par annuité, parce que ça permet de regarder le peuple droit dans les yeux en lui disant ce qu'on va faire.
La réforme de l'assurance chômage, le projet de loi va passer, lui, sans problème, il n'y aura pas de 49-3, parce que c'est technique, c'est juste, je décale de 14 mois l'actuelle convention UNEDIC, parce qu'elle devait s'arrêter fin octobre. Voilà, c'est de la cuisine. En fait, derrière, c'est je donne les mains libres à l'État pour faire absolument ce qu'il veut et tout décider dans son coin. Parce que c'est l'aboutissement, ce que nous vivons, d'un processus de reprise en main par l'État intégrale de ce dispositif UNEDIC qui a commencé depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, avec notamment les premiers transferts de cotisations vers l'impôt. C'est le thème central du baromètre Odoxa Abeille Assurance Challenge BFM Business. Je vous laisse nous donner les principaux éléments, bon, pour ou contre la réforme, mais vous avez compris que c'est la question 2 qui a retenu mon attention, Gaël.
Alors déjà, pour ou contre la réforme, il faut expliquer aux gens de quoi il s'agit et quoi de mieux.
On a expliqué, hein.
Bien sûr, c'est ce que je voulais dire.
Change les paramètres en fonction de la météo de l'emploi.
Exactement, et quoi de mieux que de citer le ministre de l'Emploi, Olivier Dussopt, en disant « quand ça va bien, on durcit les règles, et quand ça va mal, on les assouplit ».
Parisien au mois d'août.
Voilà, donc il explicite ça très, très clairement. Et donc quand on interroge les Français là-dessus, alors c'est la grande différence avec les retraites. je vous disais, sur les retraites, à chaque fois, surtout quand il s'agit de déplacer la borne d'âge, on a une majorité de personnes qui sont contre.
Parce mais que la tout réponse sur l'assurance chômage.
Tout le monde est concerné par la retraite.
Par
sur l'assurance
chômage,
pas tout le monde.
Ouais, c'est vrai.
Et du coup, les gens qui sont près du chômage,
c'est
qui sont au chômage,
total.
Les gens qui sont au chômage, sur tous les résultats que je vais vous aborder, il y a un clivage, hein, parce qu'on est, on est dans des moyennes nationales, mais quand on regarde le détail, les gens qui sont au chômage, les gens qui sont en proximité du chômage, c'est-à-dire qui ont des emplois plus précaires,
n'y touchez pas.
Alors eux, ils disent non, il ne faut pas faire ça. Et les cadres, les CSP+, alors surtout les gens de plus de 65 ans, qui sont plus concernés par le chômage, eux, ils disent, mais si, bien sûr, il faut réformer. Et donc, en moyenne, tout ça nous donne, c'est pour ça que je faisais cette digression, en moyenne, il nous donne 53% de Français qui se disent, eh ben pourquoi pas, nous sommes favorables à cette réforme, et 47% opposés. Mais après, quand on regarde dans les détails, vous avez un clivage majeur. Et pour arriver à la question 2, même chose.
C'est la première fois quand même qu'on leur soumet une réforme sur cette base-là. Géométrie variable des paramètres en fonction de la météo, de l'emploi.
Fois.
On n'avait jamais vendu
c'est
ça comme ça.
C'est la première fois, en revanche, ce n'est pas la première fois que je teste des réformes sur le chômage. Et qu'à chaque fois qu'on dit qu'on va durcir les règles concernant les chômeurs, on observe le clivage que je vous indiquais il y a un instant. Pour vous chiffrer ça, on est, pour les plus favorables, les sympathisants Renaissance, normal, c'est le parti du président, 86%. Les sympathisants LR, 78%. Les plus de 65 ans non concernés, 68% sont favorables à cette réforme. Et les cadres, 65%.
D'accord, oui.
En gros, c'est à chaque fois les proportions inverses. Pour les sympathisants de gauche, les catégories populaires et alors les chômeurs opposés à 83%. Quand on pose la question 2, la fameuse question qui vous intéresse tant, selon vous, pourquoi des centaines de milliers de postes ne trouvent-ils pas preneurs alors qu'il existe plusieurs millions de chômeurs? Est-ce avant tout parce que les chômeurs ne veulent pas accepter certains emplois qu'ils pourraient très bien prendre car ils ont trop d'avantages à rester au chômage? 47%.
47%.
Est-ce qu'ils
refusent les jobs parce qu'ils ont trop d'avantages?
Deuxième possibilité, est-ce que c'est parce que les conditions de travail proposées sur ces emplois sont dégradées? Salaire insuffisant, travail trop pénible, journée hachée? 33%. Et 19% nous disent, c'est tout simplement parce que les emplois proposés ne correspondent absolument pas au profil des personnes actuellement au chômage. Ce qui fait que quand on recoupe entre c'est de la faute
des chômeurs, c'est pas de leur faute.
C'est pas de leur faute, ça fait du 47-52. On retrouve presque le clivage que je vous indiquais tout à l'heure sur l'adhésion ou pas à la réforme, avec exactement les mêmes clivages sociologiques que j'avais évoqués il y a un instant.
C'est impressionnant, Benjamin Coria, hein, parce que là, c'est un sondage. Il y a toute la thématique de l'assistanat qui est en filigrane derrière cette réponse. 47% considèrent que si le chômeur est au chômage, c'est de sa faute. Je le résume à grande trait. 52%.
En tout cas, s'il y reste, c'est parce qu'il a trop d'avantages et que du coup, il ne veut pas...
Et 57% considèrent que celui qui est au chômage, c'est malgré lui qu'il n'est 52, il n'est pas responsable de sa situation. Ça m'a impressionné, cette réponse.
Oui, moi, ça m'impressionne moyennement.
Ah bon ?
Moyennement, je vais vous dire pourquoi, pour deux raisons. D'abord, parce que quand même, le pilonnage sur l'assistanat, etc., ça fait 30 ans qu'on entend ça, bon, d'une part. Et d'autre part, et surtout parce que je pense que le sondage est très explicite. Très explicite. C'est ceux qui ne sont pas concernés, c'est-à-dire les plus de 65 ans et les cadres, qui disent « oui, il faut cogner sur les chômeurs hein. ». Bon, alors c'est un peu déprimant hein, sur les solidarités intergénérationnelles et sur les solidarités interclassistes, pour employer un grand mot. Mais, comment dire, ceux qui sont concernés, c'est-à-dire les plus fragiles, eh ben, ils disent non, si on n'est pas dans l'emploi, c'est parce que soit les emplois ne correspondent pas, soit ils n'existent pas, soit on n'a pas les qualifications nécessaires, etc.
C'est une raison importante, celle-là.
Bien sûr. Au secours et au renfort, plus exactement, de cette vision des choses, c'est quand même très important. Le fait que 38% des ayants droit renoncent absolument à leurs droits. C'est le contraire.
25%.
Il n'y a que 38% des chômeurs ayant droit qui touchent leurs droits. Donc, je veux dire, on est quand même dans une situation extrêmement particulière. Ça veut dire que la difficulté déjà d'accès et l'ensemble des conditions qui sont mises pour bénéficier du chômage sont telles que ça décourage plus de la moitié des ayants droit. Donc, à imaginer qu'en durcissant encore les conditions d'accès et les bénéfices, on va faire revenir les gens à l'emploi, c'est juste ne pas comprendre dans à quelle situation on a affaire.
Chaque fois, je cite les travaux des experts du sujet qui ont été publiés à de nombreuses reprises, qui considèrent que le seul paramètre qui peut éventuellement permettre de réduire la durée au chômage, c'est de modifier la durée d'indemnisation. Aujourd'hui, c'est 24 mois jusqu'à 53 ans, puis ensuite, c'est 30 mois de 53 à 56, je crois, et 36 mois au-delà de 56 ans.
Moi, je dirais que surtout, bon. la question centrale, c'est l'appariement entre...
Oui.
C'est vraiment ça, la question. L'appariement.
C'est-à-dire que les jobs correspondent.
Non, mais... Le fait que les emplois offerts, bon, ça, c'est très difficile de changer. Si, on peut modifier les conditions de travail et l'attractivité correspondent aux qualifications. Mmh. C'est ça le point central pour l'argent.
Benjamin, je l'ai dit à plusieurs fois, j'ai fait des chroniques sur le sujet en disant que c'était évidemment pas l'alpha et l'oméga du retour au plein emploi, qu'il pouvait y avoir un élément qui pouvait peut-être participer à, mais que c'est un cocktail d'éléments, l'emploi beaucoup plus complexe. Bon, Christian, pas trop long là-dessus, parce que je veux absolument qu'on parle du plan sobriété. Par rapport à ce qu'on a dit et à cette réponse.
Donc je vais faire pas long.
Vous connaissez le principe de l'émission. Il reste 15 minutes 31 secondes.
Pour voilà. Je vais rebondir sur ce.
Vous avez le timing devant vous, d'ailleurs, si vous voulez suivre, il est en rouge.
Oui. Voilà. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Benjamin. Sur. Moi, je suis favorable, bien sûr, au régime danois. C'est-à-dire que pour améliorer l'appariement, on vous reforme.
Oui, c'est ça.
Et donc, au Danemark, on a des formations de 3 à 6 mois selon la nature des emplois. Vous êtes payé plein pot pendant la formation. Mais ensuite, vous avez 3 offres d'emploi correspondant à la formation que vous avez reçue. Alors là, si vous dites non, en revanche, vous n'avez plus d'indemnité. Et donc, ça veut dire qu'il y a un travail des deux côtés, bien sûr. C'est-à-dire qu'au moment d'entrer dans la formation, le chômeur qui va en bénéficier doit comprendre ce qui va se passer après. Donc ça, je pense que c'est un premier élément. Alors, on a quand même progressé en France sur ce point, mais pas suffisamment, de toute évidence. Le deuxième élément, c'est... malgré tout, il y a encore des emplois pas très agréables à réaliser. Et donc, il faut faire des progrès de mécanisation ou d'amélioration de l'organisation dans les entreprises. Mais, par exemple, dans la restauration, ça reste encore pas très sympa de faire la plonge.
Ils ont fait beaucoup de progrès dans les offres d'emploi et l'attractivité, depuis les problèmes qu'ils ont rencontrés après
Absolument, mais
COVID,
néanmoins, il y a encore des plongeurs des situations difficiles dans les restaurants. Et puis... le troisième point, alors là, qui est plus désagréable, qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, mais il y a aussi des centaines de milliers de personnes qui ne sont plus en état de travailler.
Oui. État physique, vous voulez dire ?
Physique et mental.
Oui.
Et donc là, je suis assez favorable à un régime à la hollandaise.
Non, mais là, c'est plus de l'assurance chômage.
Non, mais justement, un régime à la hollandaise où ils ont... Alors, il y a deux façons d'attaquer ce problème, par les entreprises d'insertion, ces fameuses entreprises où on vous réapprend à vous tenir debout, pour faire simple. Et l'autre façon, c'est que si on n'est même pas en mesure de répondre aux critères des entreprises d'insertion, à ce moment-là, on vous donne une rente. Voilà, parce que ça ne sert à rien de... Si vraiment, sur les 3 millions de chômeurs, il y a même des estimations à 600, 800 000 qui n'ont aucune chance de retrouver un emploi. Ça ne sert à rien d'annoncer tous les mois qu'il y a 3 millions de chômeurs. Ça énerve tout le monde.
Oui,
ça ne sert à rien.
Il y a Hugo qui m'écrit « Enfin un débat sérieux sur les retraites ». Merci. Merci Hugo.
Juste un point sur le dernier point, oui. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas en condition de revenir à l'emploi pour des tas de raisons. Parce qu'ils sont chômeurs depuis extrêmement longtemps, qu'ils ont
des cassures dans leur
toute
vie.
Employabilité, comme on dit techniquement, nous les économistes. Bon, moi je pense de ce point de vue qu'on ne fait pas assez la promotion de l'expérience territoire zéro chômeur, dans lequel des chômeurs de très longue durée, puisque ça ne concerne qu'eux, fabriquent des entreprises en étant encadrés, bien entendu, par des gens qui savent gérer, etc., et progressivement reviennent à l'emploi. Et le grand succès
des territoires zéro chômeur. Moi, j'en ai visité plusieurs, évidemment. Le grand succès, c'est quand les gens quittent l'entreprise territoire zéro chômeur.
Ils retrouvent une vie normale.
Parce qu'ils ont trouvé un emploi.
Ils retrouvent une vie normale.
Et il y a beaucoup de succès dans ce domaine. Donc,
je parlais d'entreprise d'insertion et ça en fait partie.
Bon. Oui, non, mais voilà. Je suis d'accord. Je pense que cette forme-là d'entreprise
d'insertion... On pourrait sauver des centaines de milliers
mais
de gens.
Mais oui, il faut vraiment biller alors, là-dessus.
Benjamin Cornel, je n'ai pas en tête le montant de dépenses publiques que représentent ces territoires zéro chômeur.
Non, c'est très peu.
Oui,
c'est très peu parce que...
En fait, c'est une partie de l'indemnité.
Oui,
on convertit l'indemnité.
Plus de 80% de territoire zéro chômeur, c'est la simple conversion de l'indemnité de chômage de longue durée en salaire. Mmh. Et ils ont à trouver à peu près 20 à 25% de ressources propres à travers leur activité. Donc je veux dire, ça ne coûte pas si cher que ça. Ça coûte peu cher par rapport aux bénéfices.
Je le disais, Gaël Sima, mais vraiment là, en un mot, parce que je veux qu'on avance, la dernière question, c'est justement les paramètres qu'il faudrait bouger en fonction de la météo de l'emploi. J'ai donné les principales conclusions des études académiques sur le sujet. La durée d'indemnisation est l'élément clé, disent Stéphane Carcillo ou Bruno Coquet de l'OFCE, notamment sur les hommes canadiens. Et la régionalisation est un élément encore supplémentaire de réussite. Sauf que la régionalisation en France, elle a pour l'instant été écartée par Olivier Dussopt. Vous avez posé la question.
On a testé les quatre paramètres possibles, quatre grands piliers. Trois d'entre eux sont ceux que veut mettre en place le gouvernement. Un autre, il ne le souhaite pas. Ça tombe bien s'il est majoritairement rejeté par les Français. Celui qui est rejeté, c'est l'idée de réduire le montant de l'allocation chômage versée aux chômeurs. Mais ce n'est pas ce qui est envisagé. La radiation, Christian l'évoquait. La règle qui existe, c'est quand même...
Elle existe, cette règle.
On radie tout chômeur qui refuserait deux offres que Pôle emploi jugerait raisonnables, entre guillemets. Sauf qu'elle ne s'applique pas. Ou peu. Et donc, la mise en application de cette règle qui existe déjà, 60% des Français y seraient favorables.
Il y a plein de choses qui ne s'appliquent pas. Hein. C'est comme les menaces de sanctions de l'Europe quand on est en déficit. Oui,
56% sont favorables donc, à la réduction de la durée d'indemnisation des chômeurs, vous l'évoquiez
il y a un instant.
Et 54% à ce qu'on augmente la période de travail nécessaire pour obtenir les droits au chômage. Mais à chaque fois, j'attire votre attention sur le fait que quand on regarde le découpage de la population, ceux qui sont très majoritairement favorables sont ceux qui sont très peu concernés ou pas du tout. Et ceux qui sont directement concernés, donc chômeurs, catégories populaires, personnes faiblement diplômées, sont majoritairement opposés à toutes ces règles.
Si vous voulez avoir un élément de débat, alors on a eu un élément de débat hyper précis et assez inédit sur les retraites au début de cette émission. Je ne sais plus quel jour c'était, mais l'échange entre Éric Heyer et Stéphane Carcillo la semaine dernière, je crois que c'était jeudi dernier, franchement, c'était vraiment passionnant, parce qu'on avait affaire à des gens connaissant extrêmement bien le sujet, notamment de l'assurance chômage. Voilà, si vous voulez réécouter ça, vous aurez plein d'éléments. Le plan sobriété, alors je ne reviens pas sur les détails du plan sobriété. Benjamin Coria, vous l'avez accueilli comment ce plan sobriété? Moi, j'ai ma lecture des choses, mais peut-être qu'elle est complètement différente de la vôtre, donc je vous laisse partir free rider.
Bon, moi, ma lecture des choses, c'est la suivante. Bon, premièrement, au point où on en est, si je peux dire.
Qu'est-ce que vous voulez dire, au point où on en est?
Non, des difficultés en matière d'énergie.
Pour l'instant, c'est le prix, la difficulté.
En général.
C'est pas encore la quantité.
C'est pas encore la quantité, mais là, on entend claironner que les réserves de gaz sont pleines, etc. C'est pour deux mois. Hein.
Oui, 97%, ça ne couvre pas tout l'hiver.
Ben voilà. Donc, je veux dire, on va rentrer dans une période de difficulté à la fois sur le prix, mais le prix, c'est aussi le rationnement. Parce qu'il y a plein de ménages, au prix de petites entreprises, qui, au prix de l'électricité, vont se trouver éjectés du marché.
C'est pour ça que Bruxelles veut plafonner, c'est pas fait, mais c'est bon.
Non, mais c'est pas du tout.
C'est les Allemands qui bloquent.
C'est les Allemands qui bloquent, mais c'est à eux que ça coûte très cher.
Donc mon sentiment, il tient en deux mots.
Allez-y.
Donc au point de difficulté dans lequel nous sommes, donc je répète, des mesures de type sobriété, entre guillemets, sont à peu près inévitables. Bon, voilà. Alors maintenant, la question de fond, c'est on va pas s'en tirer comme ça. Hein, on va pas s'en tirer comme ça. Peut-être pour cette saison, et encore, on attend de voir, mais c'est pas avec des petits plus et des petits moins, hein, dans une économie de gabegie, hein, qu'on va résoudre les questions énergétiques. Donc, moi, le regret que j'ai, c'est de laisser croire, et alors, moi, je cherche pas à avoir l'unanimité autour de cette table, mais l'illusion, c'est de croire qu'on peut garder la trajectoire actuelle avec un peu plus, un peu moins, et qu'on va passer comme ça la crise énergétique.
Vous êtes un peu dur, on veut pas garder la trajectoire. On a dit qu'il faut 10% de consommation en moins, c'est pas garder la trajectoire. voir quand même.
Oui, mais c'est mais regardez quelles sont les mesures prises. Les mesures prises, c'est les piscines, c'est un degré ici, c'est je sais pas quoi. Bon, donc les vraies questions, c'est quoi? Les vraies questions, c'est la mobilité. Est-ce qu'on s'en prend une bonne fois pour toutes? Il faut être très clair à la mobilité individuelle en favorisant systématiquement et par des mesures qui sont simples à prendre. Je lisais il y a pas longtemps que une des propositions, c'est un ticket mobilité de 9 euros sur les transports en commun pour tout ce qui est des déplacements journaliers.
C'est les Allemands qui ont fait ça sur l'ensemble de leurs transports ferroviaires.
Voilà. Bon, donc ça, c'est des mesures de fond. Hein. C'est pas un degré d'accord. De plus, un degré de moins. En plus, invérifiable d'une certaine manière. Oui. Donc voilà. Mon sentiment, c'est au point où on en est, c'est inévitable de faire ça. Ou à peu près, quoi. Enfin, prendre des mesures d'urgence, mais on ne peut pas faire l'économie de réformes de fond structurelles, c'est-à-dire la mobilité, c'est-à-dire les passoires climatiques, c'est-à-dire le diminuer autant que possible le transport individuel, c'est-à-dire les SUV, c'est-à-dire les jets privés. Il va falloir quand même aborder ces questions un jour.
Il est question de retirer aux jets privés la taxation réduite dont bénéficie l'aviation sur le kérosène, qui est un héritage, je crois, des années 40. Ouais. Je ne sais même plus de quelle année.
Quelle mesure, c'est vraiment avec ça qu'on va s'en tirer.
Parmi les mesures, il y a quand même les voitures de l'administration ne pourront plus rouler à 130, mais à 110 sur l'autoroute. Je ne sais pas comment le gendarme décèle que la voiture qui est à 110 ou 130, elle est de l'administration.
C'est pas comme ça qu'on va s'en tirer. La crise, elle est beaucoup plus profonde que ça.
Mais attendez, on n'a jamais menti aux gens en leur disant « Ah, on a 97% de réserve de gaz, c'est bon, ça passe. » Tout le monde sait bien que ça passe pas. Et en plus, les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 étant définitivement HS, c'est fini les gaz russes. Christian, le plan énergie sobriété, là,
Mais effectivement, il faut
qu'est-ce qui vous inspire
largement changer le modèle. Et
il paraît que ça fait un an qu'il est prêt, à nous dire. Oui, et que Jean Castex n'a pas osé le dégainer parce qu'il faisait mal.
Oui, mais
et à un moment, il faudra admettre de dire aux gens qu'il y aura, que ça va
je
pas.
Je pense qu'il y a une erreur là de com, c'est-à-dire que ce qui fait mal, c'est pas seulement les difficultés qu'on peut avoir en termes de chauffage ou de déplacement cet hiver, c'est de pas avoir de visibilité sur 20 ans.
Bien sûr.
Il est important d'avoir une communication sur ce qu'on fait sur 20 ans. Et donc, là, sur ce point, on souffre quand même, il faut le rappeler, de décisions prises dans les 15 dernières années, où on a laissé tomber le nucléaire, où surtout, on n'a pas laissé se développer, on n'a pas poussé suffisamment le photovoltaïque. Le photovoltaïque, qui a beaucoup moins d'inconvénients que l'éolien terrestre, c'est quelque chose qu'il faut pousser, d'autant plus que au CEA, ils ont beaucoup travaillé...
Commissariat à l'énergie atomique.
Sur du photovoltaïque avec un taux d'efficacité qui est beaucoup plus élevé que le photovoltaïque actuel. Il faudrait mettre des centaines de millions d'euros sur la recherche et la production de nouveaux panneaux sur ce sujet-là. Il faut multiplier par 10, on peut le faire techniquement à l'horizon de 10 ans, la production de photovoltaïque. Il y a un deuxième élément, et je termine par là, c'est l'hydroélectricité. Il se trouve qu'on pourrait produire, en investissant sur 3 ans, 25% de plus d'hydroélectricité. Pourquoi on ne le fait pas ? C'est hallucinant, on a envie de hurler. C'est parce qu'on a tellement merdé depuis 20 ans au niveau français par rapport aux directives européennes sur l'eau, sur différents sujets. Et notamment, on s'est laissé avoir sur une directive qui exigeait d'ouvrir les barrages. Donc, la France se retrouve dans une situation dans laquelle n'est pas l'Allemagne, de devoir privatiser, entre guillemets, les barrages d'EDF. Et EDF, ayant cette mesure sur la tête depuis plus de 10 ans, n'investit plus dans les barrages. Donc on se retrouve dans une situation où personne ne prend de décision parce que ça va bouger, on a peur que si on bouge la directive sur l'eau. Bon. Donc à un moment donné, il faut remettre du moyen long terme et prendre des décisions lourdes et aller voir les autorités européennes et s'adresser au peuple et prendre des décisions lourdes sur ces sujets-là. On peut relancer l'hydroélectricité, il faut relancer massivement le photovoltaïque et les gens se diront, si j'ai un peu froid cet hiver, c'est pas forcément les 20 prochaines années. Mais si on se dit je vais avoir froid cet hiver, mais en plus ça sera pire les 20 prochaines années, on reçoit pas les choses de la même façon.
C'est super dur de faire bouger Bruxelles. Il faut écouter Bruno Le Maire quand il raconte les heures au téléphone avec Magret Vestager.
Mais il y a un moment.
Ursula von der Leyen, quoi.
Il faut se poser. Il y a un moment. Il faut se poser la question anglaise.
La quoi ? Question anglaise.
Poser la question anglaise, c'est-à-dire que si on a un ensemble de contraintes insupportables au niveau européen, il faut dire aux technocrates européens qu'on continue plus de jouer le jeu.
Ah, mais enfin, si on n'a plus la monnaie, on sait, les boucliers, c'est fini.
Décidément, aujourd'hui, Christian, et plein de bonnes idées.
Non, mais c'est... enfin, moi, j'en parlais avec Benjamin...
On va pas se coucher indéfiniment.
J'en parlais avec Benjamin à volonté. Je pense que ce que nous vivons est d'une telle violence. D'abord, c'est pas compliqué pour mettre une économie à plat. Vous avez deux éléments, c'est la guerre et la pandémie, avant tout le reste. Je pense qu'il va se passer des trucs... Alors, je sais pas jusqu'où ça nous mène. Mais il va se passer des trucs. La transition énergétique va considérablement s'accélérer. On va revenir sur des marchés nationaux de fixation
des prix
d'énergie.
Nicolas, je peux juste vous dire une chose.
Ah oui, mais on laisse quand même un peu de temps à gagner.
Non, mais c'est très court.
Bon,
il doit y avoir, je me trompe peut-être, 30 000 personnes à la Commission européenne, dont 10 000 hauts fonctionnaires qui sont payés 10 fois le SMIC et sans impôts. Il se trouve que ces gens-là, ils ont aussi envie de garder leur fromage. Donc il y a un moment, on leur dit, peut-être que le fromage va s'arrêter si vous voulez pas bouger.
Il y a un auditeur qui me dit, comment voulez-vous vous passer de la voiture individuelle quand à la campagne on vous met les dépôts d'ordures à 4 km de votre domicile?
Je voulais éclairer de trois.
Il faut les mettre ailleurs. Non,
bon, les 1 minute 10, c'est le mot de la fin.
Non, mais je voulais simplement vous donner 2-3 chiffres ou tendances d'opinion sur tout ce que vous avez abordé, sur ce que vient de dire ce que vous venez de dire l'un et l'autre sur la situation économique. On a notre baromètre économique qui nous montre un indice de morale au fond du trou. En cet automne, justement parce que les Français, dans les enquêtes qu'on réalise, nous anticipent un hiver qui va être extrêmement difficile à un moment où ils souffrent déjà de l'inflation et de la hausse des prix de l'énergie. Ensuite, sur les efforts, vous évoquiez, et dans le plan sobriété, il y a l'idée d'efforts individuels qui sont demandés aux Français, dans leur logement, sur le fait d'abaisser la température chez soi, etc. On a balayé tous les efforts demandés, et à chaque fois, on a une majorité de Français, non seulement qui se dit, en gros, des trois quarts, prête à le faire, à fournir cet effort, mais qui a déjà commencé, parce qu'avec la hausse des prix, ils ont déjà baissé les températures dans leur logement ou limité leurs déplacements s'agissant de la mobilité. Enfin, sur la question de la mobilité, un chiffre quand même, même pas un chiffre, une tendance. Ce qui a provoqué le mouvement des Gilets jaunes, c'est la menace de hausse des prix des taxes sur les carburants. Les Français sont extrêmement attachés à pouvoir utiliser leurs moyens de transport thermique individuel quand ils ne peuvent pas faire autrement. Si on les oblige, ça peut mettre le feu aux poudres.
Alors, t'as vraiment envie de couper le poste en ce moment. Tu vas plus avoir de carburant, tu vas plus avoir d'eau chaude, tu vas payer une fortune ta bouffe. Okay. C'est gay. Benjamin Coria, Christian Saint-Etienne et Gaël Sliman pour le baromètre Odoxa à Bailly Assurance.